Radio Okapi.
Le journal présenté par Grace Hamzati Masanzi.
À la une de l'actualité ce soir sur Radio Okapi, le Conseil d'État a instruit 39 affaires ce mercredi concernant l'annulation des suffrages de 82 candidats aux législatives nationales, provinciales et communales. En effet, parmi ces 82, 16 ont saisi les juges des référés liberté contre la CENI afin d'être rétablis dans leurs droits en accusant la centrale électorale de violer les droits de la défense. Montée de la criminalité dans la ville de Goma au nord Kivu, le comité provincial de sécurité annonce une série de mesures visant à lutter contre ces phénomènes observés depuis quelques semaines. Ces mesures pourraient aller jusqu'à interdire toute circulation des taxis-motos au-delà des 18 heures, affirme les porte-parole du gouverneur. Ingénieur Franck Saloumou, chef technique de la régie des eaux Bukavu, est l'invité de ce journal. Il nous parle des principales causes d'interruption de la fourniture d'eau dans cette ville, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil d'État a instruit 39 affaires ce mercredi concernant l'annulation des suffrages de 82 candidats députés. Sur ces 82, 16 requérants ont saisi les juges des référés liberté contre la CENI afin d'être rétablis dans leurs droits. Ils accusent la centrale électorale de violer les droits de la défense. Un autre groupe a saisi en inconstitutionnalité la Cour constitutionnelle contre la décision de la CENI qui violerait la loi. Explication de Jeff Ngoy.
11 chambres du conseil ont organisé des audiences à huis clos. Certaines ont même déjà pris quelques affaires en délibéré et pourraient rendre leurs décisions ce jeudi ou vendredi. Les requérants accusent la CENI de les avoir injustement incriminés et annulé leur suffrage sans les avoir entendus, alors qu'elle a institué une commission d'enquête qui pouvait préalablement les inviter. L'acte posé par la CENI étant administratif, ils sont venus demander au juge de référer liberté pour suspendre cet acte et ordonner à ce qu'il soit entendu, qu'il présente leurs moyens de défense sur des faits leur reprochés, notamment la fraude, la corruption, le vandalisme, la détention illégale des matériels électoraux.
Merci à vous, Jeff Ngoy, pour toutes ces précisions. Et puis, de graves accusations pèsent sur certains agents de la CENI dans le territoire d'Idiofa, province du Kwilu. Au moins 6 ont été arrêtés et sont cités dans un rapport du commissariat territorial de la police qui les a mis à la disposition du parquet près le tribunal de paix d'Idiofa. Ils sont poursuivis pour notamment l'implication dans la fraude électorale en faveur de certains candidats députés nationaux et provinciaux. Ces actes ont été commis dans plusieurs centres de vote, entre autres à Dibayaloubwe, au village Kimpat, Tamikwa, secteur de Madimbi, au centre de Belo et à Kapia et ailleurs. La nouvelle société civile congolaise d'Idiofa salue ces arrestations et demande à la justice de bien faire son travail afin que ses agents électoraux répondent de leurs actes. Le point avec Irène Mbomaluzolo.
Ce rapport de la police mentionne que certains membres des bureaux de vote et même les chefs des centres de vote ont été à la base de plusieurs dérapages et cas de fraude électorale enregistrés lors de l'opération de vote du 20 décembre 2023. Par exemple, la police dit avoir saisi entre les mains de plusieurs membres des bureaux de vote des machines à voter, des bulletins de vote et autres. Ces agents électoraux ont été surpris en train de voter dans des maisons privées pour les comptes de certains candidats députés tant nationaux que provinciaux. Pour l'instant, au moins 6 agents de la CENI qui le sont aux arrêts et mis à la disposition du parquet près le tribunal de paix du Djofa, peut-on lire dans ces rapports de la police. Pour sa part, la nouvelle société civile du Djofa condamne les comportements de ses agents électoraux et demande qu'ils soient jugés et condamnés. Arsène Kassiama est le coordonnateur de cette structure.
Nous déplorons cette attitude-là. Les agents de la CENI qui se sont encore mêlés dans les bourrages, dans la fraude, dans la corruption. Nous voulons que la justice les poursuive jusqu'à ce qu'on les condamne. Pour les candidats qu'ils ont contribué, il faut que ces candidats soient invalidés aussi.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de la CENI quant à ces sujets sont restés sans succès. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Par ailleurs, la commission diocésaine Justice et Paix CDJP Maniema invite la commission électorale nationale indépendante CENI à identifier et sanctionner ces agents qui ont octroyé des dispositifs électroniques de vote et bulletins de vote aux candidats invalidés. Son coordonnateur l'a dit à la presse hier mardi à Kindu. On écoute Maître Salé Mouchaba Baudouin dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Nous savons que c'est la CENI qui a commandé les machines. C'est la CENI qui a programmé ces machines. Et ce n'est que la CENI qui a mis en lien les machines et les serveurs. Mais Comment aujourd'hui la CENI nous publie seulement le nom de fraudeurs et annule leur suffrage, mais sans que certains agents aussi de la CENI qui ont été impliqués dans ce fraude ne soient pas aussi connus par la population. Et curieusement, quand vous regardez, tous ces candidats-là sont les membres de la famille présidentielle. Et c'est que la CENI devrait aussi prendre le courage d'annuler aussi les résultats du chef de l'État, parce que les élections étaient combinées. On ne peut pas seulement extirper pour les législatives nationales et provinciales sans que cela ait d'impact sur le résultat présidentiel. Et là, nous sommes très satisfaits que la CENI vient de confirmer que ces élections vraiment ont été émaillées de beaucoup de fraudes. Les enquêtes doivent continuer. Certains agents de la CENI doivent être récupérés.
Nous le disions dans les titres. Au Nord Kivu, le comité provincial de sécurité annonce une série de mesures visant à lutter contre la criminalité en hausse depuis quelques semaines dans la ville de Goma. C'était dans une réunion présidée hier mardi par le gouverneur militaire à Mugunga, un quartier situé dans la partie ouest de la ville et à laquelle ont participé les cadres des bases des 18 quartiers de Goma. Selon le porte-parole du gouverneur, ces mesures pourraient aller jusqu'à interdire toute circulation des motos, des taxis-motos au-delà des 18 heures. Bernard Denyangi.
Les participants à cette réunion ont commencé par passer en revue l'ensemble des cas de criminalité qui augmentent de manière exponentielle de jour en jour dans la ville de Goma. Ceci a conduit à l'annonce d'une série de mesures qui devraient entrer en vigueur incessamment, dit le porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko.
Incessamment, il n'y aura plus question que les motos circulent à partir des 18 heures. Mais aussi parce que les amis appelés communément Kambi se sont victimes des groupes qui utilisent illégalement les armes. Il a été retenu aussi que ces derniers doivent désormais arrêter leurs activités à partir des 18 heures. Le comité provincial de sécurité a promis d'ouvrir les postes de police. Il a été aussi demandé à la population d'accompagner cette police.
Un arrêté du gouverneur devrait sortir incessamment pour la mise en vigueur de ces mesures, indique le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike. Précisons que les chefs des 18 quartiers de la ville de Goma ont pris part à cette réunion délocalisée exceptionnellement au quartier Mugunga. Dans ce quartier, comme dans plusieurs autres de la ville, plusieurs civils ont été tués et d'autres blessés récemment par des bandits armés, certains opérants à moto. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, à Ituri, le nombre de cheptels a sensiblement diminué à la suite de la persistance de l'insécurité dans cette province. La plupart d'éleveurs ont déplacé leurs vaches dans la province voisine du Haut-Uele. D'autres importent les bovins de l'Ouganda pour être vendus aux consommateurs, précise l'association des bouchers à Ituri. Son président ajoute que 750 vaches ont été abattues durant la période des fêtes de fin d'année 2023 dans la ville de Bunia, contre plus de 1500 les années antérieures. Radio Kapi Bounia, Ezekiel Mouzalia.
L'insécurité qui persiste dans la province de l'Ituri depuis environ deux décennies affecte sensiblement l'élevage des bovins, caprins et porcins dans plusieurs localités, notamment dans les territoires d'Irumu et de Djougou, où les groupes armés sont encore très actifs. Certains bouviers ont été tués et des centaines de vaches volées par des miliciens, ce qui a obligé de nombreux éleveurs à déplacer environ 70% des vaches dans les territoires d'Aru et Maagi en Ituri et dans la province du Haut-Uele, notamment à Isiro, Giro et Ouacha. Le vétérinaire de l'abattoir industriel de Bounia.
Les éleveurs ont fait migrer leurs bêtes vers Berunda, tête d'Isiro.
Ils traversent des moments les plus difficiles parce que dernièrement, il y a eu l'attaque de nos éleveurs qui provenaient de l'Ouganda.
Le président des bouchers en Ituri déplore également la multiplicité des barrières et l'insécurité sur les axes routiers pour acheminer des bêtes à Bounia, chef-lieu de la province. Bagou Makassa.
Il y a tracasserie, il y a carasse de bêtes, il y a hausse des prix des dollars. Parce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse aller se ravitailler. C'est la population qui paye. Nous avons les canards de porc, nous avons les problèmes des poules, nous avons les problèmes des moutons, des chèvres, n'en parlons même pas. Même les œufs proviennent de l'étranger, s'il vous plaît.
Une accalmie s'observe depuis 6 mois en Ituri, mais sans aucune incidence directe sur l'élevage en province. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Direction le Kasaï central, où la Commission nationale des droits de l'homme, CDH, appelle le gouvernement central à rendre rapidement disponibles les fonds pour accélérer le déploiement des magistrats dans les ressorts judiciaires. C'est à la suite des affectations effectuées à la fin de l'année dernière par le Conseil supérieur de la magistrature. À en croire le coordonnateur provincial de la CNDH. Le Kasaï central étant une province post-conflit, elle a besoin de voir les magistrats se déployer rapidement pour permettre aux juridictions de fonctionner et de dire les droits pour toutes ces personnes. Maître Vincent Kayembe, dans ses propos recueillis par François Kadima.
L'accès à la justice, c'est l'un des droits fondamentaux reconnus à chaque citoyen congolais. Nous avons été privés de cet accès, surtout la province du Kasaï central, considérée comme province post-conflit, et cette province, par principe, doit devoir s'organiser pour que, effectivement, la justice soit rendue. Nous avons des victimes qui sont en train d'errer ça et là, mais qui doivent quand même accéder à la justice considérée comme un droit fondamental. Avec la nouvelle mise en place au sein de la magistrature, nous avons salué de demain, mais encore faudra-t-il donner des moyens conséquents pour permettre à ces magistrats d'arriver là où ils sont affectés sans qu'il y ait beaucoup d'accrocs. La magistrature, c'est juste un service très bien hiérarchisé et nous demandons par conséquent au Conseil supérieur de magistrature de pouvoir infliger des sanctions à tout magistrat qui, dès lors qu'il est affecté, disposa ainsi des moyens, mais n'arrive pas à regagner son poste d'attache.
Autre nouvelle sur Radio Capi, la RDC et l'Arabie Saoudite signent un protocole d'accord dans les secteurs miniers. Protocole signé hier à Riyad, capitale soudanienne, par la ministre des Mines Antoinette Nsamba Kalambay et le ministère de l'Industrie et Ressources Minérales de l'Arabie Saoudite. Les deux pays dotés d'innombrables ressources minérales veulent développer leur coopération bilatérale. C'est en marge du futur forum minéral qui se tient à Riyad du 9 au 11 janvier. Un événement qui rassemble plus de 45 pays représentés par des officiels, des chefs d'entreprise et d'autres parties prenantes du secteur minier. Les détails avec vous, Cynthia Bachi Zinabizana.
La RDC et l'Arabie Saoudite veulent échanger leurs expériences en matière de travaux géologiques et de technologies modernes utilisées dans l'exploration, l'exploitation minière, l'évaluation des minerais, la protection de l'environnement ainsi que d'autres sujets liés aux activités minières. Après la signature de ce mémorandum d'entente, il est prévu la mise en place d'un cadre mixte de travail qui inclura notamment le cadastre minier, le fonds pour les générations futures FOMIN ainsi que les structure saoudienne des mines pour le suivi et l'exécution des accords. En parallèle, une quinzaine de ministres des mines des pays africains se sont entretenus toujours à Riyad sur la nécessité de la création d'une plateforme continentale pour le développement d'une chaîne de valeur intégrée du secteur minier africain d'ici 2063. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la vision africaine définie dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour rappel, le futur Minerals Forum rassemble pendant 3 jours plus de 45 pays représentés par des officiels, des chefs d'entreprise et d'autres parties prenantes du secteur minier. Il s'agit de discuter de l'avenir de ces secteurs au niveau mondial en mettant un accent particulier sur la transition écologique.
Cynthia Bachizi Nabizana sur la fréquence de la paix. Revenons ici à Kinshasa où les habitants du quartier Kinsuka Pêcheur, précisément ceux du quartier appelé communément à Carigresse dans la commune d'Engaliema, sont sans abri depuis plus de 3 semaines. Cette situation est consécutive à la crue du fleuve Congo qui a provoqué l'inondation du dit quartier. Ces derniers, qui ne savent plus à quel sens s'y vouer, lancent un cri de détresse auprès des autorités compétentes. Reportage de Marie-France Munguindou et Murphy Fika.
C'est une scène de désolation qui s'observe depuis plus de 3 semaines au quartier Kinsuka Pêcheur. Les habitations tout entières inondées, d'autres détruites par les eaux du fleuve Congo qui ont quitté leur lit. Le victime trouvé sur le lit affirme avoir tout perdu.
Nous avions connu des inondations dans notre quartier, mais celle-ci nous dépasse complètement. Auparavant, les eaux n'inondaient pas nos quartiers de la sorte, jusqu'au point que nous abandonnions nos maisons.
Des familles entières ont abandonné leur maisons et leurs biens qui sont désormais sous les eaux. Ces derniers se trouvent actuellement sans abri et passent nuit à la belle étoile. Des petits commerces à savoir, étalage, bistrot, terrasse, boucherie et autres ont fermé leurs portes.
Nos maisons sont sous les eaux. Nous passons actuellement la nuit à la belle étoile avec nos enfants. Les autorités compétentes doivent nous venir en aide parce que l'on ne sait plus où aller.
Notez que cette catastrophe naturelle s'est reproduite 5 ans après celle de 2019.
Actualité internationale.
Le Maroc a décroché ce mercredi à Genève la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au terme d'un bras de fer houleux l'opposant à l'Afrique du Sud qui a pointé du doigt le bilan des Rabat dans le domaine. Le candidat marocain, l'ambassadeur Omar Zinber, a obtenu 30 voix contre 17 pour son homologue sud-africain Nxolisi Nkosi lors d'un vote à bulletin secret.
L'invité.
Il s'agit de l'ingénieur Franck Saloumou, chef technique des régies des eaux Bukavu. Il nous parle des principales causes d'interruption de la fourniture d'eau dans la ville de Bukavu, causées et notamment par les cassures des conduites sur plusieurs sites érosifs, constructions anarchiques et autres. Il fait aussi un état des lieux de la situation des pénuries d'eau constatées dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu. Ingénieur Franck Saloumou nous en parle dans cet entretien avec Rachel Kiesembangu.
Ingénieur Franck Saloumou, bonjour.
Bonjour madame.
Manque d'eau dans la ville de Bukavu, quelles en sont les principales causes?
Les causes de manque d'eau dans la ville de Bukavu sont de plusieurs ordres. Par exemple, des cassures de conduite à plusieurs sites érosifs de la ville de Bukavu. Il y a des situations que nous connaissons dans la ville qui sont dues aux constructions anarchiques. Les constructions anarchiques sont un sérieux handicap à la distribution de l'eau potable dans la ville de Bukavu. Il y a des endroits où vous allez remarquer que tous nos ouvrages des purges, les ventouses et les vidanges sont déjà obstrués par les constructions. Et il n'y a pas moyen que nous puissions intervenir rapidement. Nos ouvrages de purge sont obstrués par les constructions, ce qui est une sérieuse anomalie à la circulation de l'eau dans les conduites. Il y a un autre problème qui handicape sérieusement la desserte dans la ville de Bukavu, c'est l'extension aussi de la ville de Bukavu. La ville s'est largement étendue, notre production est restée presque la même. Et ce sont les principales causes des manques d'eau que nous connaissons dans la ville de Bukavu, parce que quand il y a cassure de conduite, il y a interruption de la fourniture.
Alors, quelle est la solution définitive, la plus réaliste, durable, pour que l'on soit vraiment desservi dans la ville de Bukavu?
Pour le moment, la solution passe par l'augmentation de la production. Il nous faut réellement augmenter la production parce que actuellement notre production dans la ville de Bukavu, toutes nos unités de production réunies avoisinent au moins 40 000 mètres cubes, alors que la ville dans son entièreté a besoin de plus ou moins 65 000 mètres cubes d'eau par jour. Pour ça, nous avons un projet vraiment ambitieux qui sera financé par l'Agence française de développement. Ce projet va consister à capter l'eau de la rivière Pungwe à la lisière du parc de Kahuzi-Biega. Nous allons construire l'usine de traitement d'eau potable au niveau de Chiriri. On va poser une conduite d'adduction de plus ou moins 35 km. Je pense que quand ce projet sera réalisé, ça sera vraiment un ouf de soulagement dans la ville de Bukavu en ce qui concerne la desserte en eau potable. Par rapport aux constructions anarchiques, la régie des eaux n'a pas une force coercitive. Nous recourons toujours aux autorités provinciales pour que ces derniers puissent nous aider à déguerpir certaines personnes qui occupent certains sites non édificants. Par exemple, les cas que nous venions de soulever, celui du site du lycée Wima, c'est un site impropre à la construction, mais les gens ont construit dessus. Les eaux de ménage, les eaux qui viennent des toits en cas de pluie, ce sont ces eaux qui s'infiltrent et qui contribuent au ramollissement du sol à cet endroit-là. Nous lançons vraiment un SOS aux autorités provinciales pour que ces gens qui occupent ces sites soient déguerpis, qu'on leur trouve un autre endroit. D'ailleurs, dernièrement, nous étions informés que toutes ces personnes-là avaient déjà des parcelles qui leur étaient données dans un autre site. C'est question seulement que les autorités appliquent la mesure, qu'on les déguerpisse et qu'à notre niveau, nous puissions sécuriser les sites en y plantant les arbres agroforestiers ou certaines plantes anti-érosives pour que ces sites soient stabilisés et que la conduite soit vraiment en bon état de fonctionnement.
Et quelles sont les mesures temporaires ou provisoires pour trouver une solution à ce problème?
Nous comptons poser une conduite en acier, parce que l'acier c'est une matière soudable facilement, parce que la conduite qui passe à cet endroit actuellement, c'est une conduite qui est en fonte. Or, la fonte, elle est cassante. Quand il y a un mouvement de terre, elle se casse facilement. Nous comptons avec la direction générale poser une conduite en acier. Et ça va tant soit peu soulager cette situation, mais ce n'est pas une solution définitive. La solution définitive serait que ces gens soient déguerpis de cet endroit et que l'on puisse réellement stabiliser cet endroit.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Notre invité, le chef technique de la régie des eaux Bukavu, était interrogé par Rachel Kiesimbango. Ainsi s'achève ce radio-journal, coordonné et supervisé par Alain Rungmouchins. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde et Jude Mister Bilanda pour la réalisation. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Vous pouvez réécouter ce journal sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de l'antenne soir avec Christelle Fritimango.